Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Nous revoici donc ensemble dans nos lectures en liberté pour la suite du récit de Henri Calais, Les grandes largeurs, une balade parisienne. À partir de l'Alma, il semble que l'on accède à une autre ville. Les autos sont plus brillantes que chez nous, les bâtisses sont plus belles, les femmes aussi. On ferait bien une prisonnière. Il semble que l'existence ait plus de prix, qu'elle vaille davantage. Il semble même que la qualité de l'air soit quelque peu différente, plus fine. On a l'illusion d'être à l'étranger, en transit seulement. Il est plaisant de passer ainsi d'un univers modeste à l'opulence et à la grandeur, du froid au chaud. Des senteurs de poissons de l'avenue d'Orléans aux fragrances des dames à fourrure. Il n'en coûte que 3 ou 4 tickets d'autobus et l'on rentre chez soi tout parfumé. Les murs de l'église de Saint-Pierre de Chaillot sont couverts de phrases en langue latine et française. J'essaie d'en traduire quelques-unes en passant. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ce calembour a 2000 ans, mais il est encore assez drôle. De l'autre côté de l'avenue, j'ai relevé un graffiti plus récent à la craie. « Laval au poteau !» Le vœu de l'auteur a été exaucé. Devant cette maison de belle apparence se tient presque toujours un vieux concierge qui émiette du pain aux pigeons. Je descends à l'étoile. « Oui ?» J'aime les vastes et longues avenues qui partent de l'Arc de Triomphe ou qui y aboutissent. J'aime leurs noms. Ils soufflent continuellement par là une brise de gloire et d'éternité qui ne vient pas dans nos rues où l'on prend petit à petit l'habitude de regarder les hommes et les choses par le gros bout de la lorgnette. Ce qui nous fait le plus défaut, une certaine ampleur de vue, une certaine élévation de caractère et aussi un certain sens historique. On dirait que nous ne pouvons nous retenir de ramener les événements et leurs causes à notre taille et à notre entendement. Nous sommes de petites gens, en vérité. S'il nous était permis de nous installer à demeure dans ces quartiers élégants, peut-être. Dans cette climature, deviendrions-nous rapidement des personnes présentables? Je crois au tellurisme. Nous finirions par acquérir des pensées neuves et bourgeoises, correctes pour le moins, comme sur mesure, au lieu de ces idées de confection que nous portons. Cependant, nous avons tous été à la même école, nous avons tous feuilleté de semblables manuels d'histoire de France, nous avons tous été élevés au sang. On en a les doigts poisseux encore. Il ne devrait pas y avoir une telle différence entre ceux d'outre-Seine et nous. J'adore l'histoire de France. Et cela ne s'arrête jamais. On imprime sans cesse de nouvelles pages en rouge pour que les enfants les apprennent par cœur. Moi, j'en suis encore à la guerre du Tonkin. Mais depuis ce temps, nous avons œuvré de notre mieux. Quelques chapitres, prenant à l'extrême sont venus s'ajouter aux précédents. Nos descendants pourront s'en pourlécher les babines. Ils ne seront pas à court de sang français. Ce qui me fait dire que je suis resté à la guerre du Tonkin, c'est que je viens de retrouver une de mes rédactions écrite à 10 ans sous le titre « Les vacances ». La feuille de cahier a jauni, elle est devenue fragile. Je parle d'abord de la plupart des élèves qui manifestent leur joie d'aller à la campagne, à la montagne, puis d'une douzaine qui ne disent rien car ils savent qu'ils ne pourront pas y aller car leurs parents ne sont pas assez riches. Je devais être parmi les 12, autant qu'ils m'en souviennent. « Regardez Pierre, » disais-je encore. « Il pleure car il doit aller à l'orphelinat. » Sa pauvre mère venait de mourir. Jules allait faire son apprentissage à 8 ans et Adrien ne causait à personne. On l'appelait l'égoïste. Mais le pauvre petit n'y était pour rien. Il avait appris la mort de son frère, qui était parti pour être soldat au Tonkin. Et il était mort dans une embuscade par des Tonkinois. Il en fut fort chagriné, et depuis il bégait et ne peut parler qu'en faisant beaucoup de fautes. Pauvres enfants, plaignons-les. Il est curieux de noter que, 35 ans plus tard, les Tonkinois continuent à nous tendre des embuscades. Et à un autre égard que ma sympathie larmoyante se tournait déjà vers les pauvres enfants. Et les enfants pauvres, comme pour les couvrir. C'est le style qui me gêne un peu. Chaque plaque indicatrice nous remémore une victoire napoléonienne. Wagram, Friedland, Jena, Tilsit... Est-ce une victoire? Ça sent fort l'épopée, les bottes, la poudre à canon. Je m'attarde à relire le nom des généraux, des maréchaux prestigieux. Hoche, Kléber, Marceau, MacMahon, Foch. Il me revient quelques phrases immortelles. J'y suis, j'y reste, ou après vous, messieurs les Anglais. Je ne suis plus le même. Un vent grisant monte qui fait claquer des étendards dans mon cerveau. C'est plus exaltant que rue Hippolyte Mindron ou rue Brézin. Qui étaient-ils ces bonhommes-là? D'après les dictionnaires Larousse, l'un était sculpteur, l'autre philanthrope. Deux civils en tout cas. Tandis que sur cette place, on est de plain pied dans un passé triomphal. C'est une sorte de leçon d'histoire en plein air. Et je voudrais dire de plein fouet. Tout cela me réconforte, me retrempe. Et je me prends à fredonner des fragments de refrains patriotiques appropriés, tels que « Le rêve passe » ou « En revenant de la revue ». J'ai toujours eu la marotte de chanter en marchant de ci de là par les rues. C'est une façon d'orner le temps à mesure qu'il se dévide. Je le festonne. Un joli travail de patience. J'en ai des piles entières dans mes armoires. Ce sera pour mes héritiers. J'ai aussi la lubie de soliloquer. Non, ce n'est pas vraiment cela. Il m'arrive souvent de m'entendre articuler des mots ou des bouts de phrases dépourvus généralement du moindre sens ou, plus précisément, ne s'appliquant à rien. Je jurerais que c'est quelqu'un d'autre qui vient de parler. Tantôt, c'est comme une réponse à une question, mais laquelle? Ah, ça non! C'est dit avec énergie, ou tantôt, une approbation. Oui, c'est ça, mon vieux. Je n'y comprends rien. Ou c'est un chiffre, un nombre qui me sort de la bouche. 82. À moins que je ne dise gentiment au revoir à je ne sais qui. D'autres fois, je me mets à crier en moi-même des grossièretés dont j'ai honte aussitôt. Ce n'est pas mon langage habituel. Allez vous faire enfifrer, tas de sagouins. Où ai-je appris ces saletés? Est-ce que cela n'apporterait pas la preuve qu'il s'agit d'un autre? de l'autre con, pour m'exprimer comme lui. À qui s'adressent ces injures ? À quel ennemi invisible ? Suis-je un peu fou ? N'y a-t-il pas lieu de s'alarmer ? C'est comme lorsque la nuit, on dort mal, mais c'est le jour. Il existe un petit café d'aspect démodé au coin de l'avenue MacMahon et de la rue de Tilsit, où j'ai eu jadis des rendez-vous d'amour dans la pénombre d'une arrière-salle. La moleskine de la banquette était rouge et collante. La fièvre, c'est nous qui la portions. La jeune femme s'appelait Annie. Je n'ai rien à en dire, sinon qu'elle était plus grande que moi. D'ici, elle a aussi une silhouette démodée. J'y suis retourné. Même glace, même dorure, même colonne, même mosaïque, recouverte, il est vrai, d'une patine qu'il n'y avait pas alors. Durant 20 ans, des derrières des deux sexes y ont frémi silencieusement. La porte des closettes m'était tout à fait sortie de la mémoire, et pourtant elle a dû tenir une place importante dans mes relations avec Annie. On l'ouvre, on la ferme. C'est un va-et-vient constant de consommateurs du comptoir et même de passants de la rue. Les idylles de café sont toutes ponctuées d'un fracas de chasse d'eau. Il faisait sombre. À la table d'à côté se tenait un vieux couple. Vieux par comparaison avec ce que nous étions, Annie et moi. En réalité, ils devaient avoir mon âge. Ils buvaient du vin rouge dans des verres à pied. Moi, j'attendais encore Annie. Elle avait de longs cheveux blonds et souples. Elle venait là en cachette de ses parents à qui elle faisait accroire qu'elle se rendait chez son professeur de piano. De fait, elle avait toujours avec elle un carton à musique à l'intérieur duquel, en plus de quelques partitions, elle transportait un injecteur en caoutchouc. C'était une personne réfléchie. Je m'aperçois aujourd'hui qu'il y avait des parties d'ombre dans sa vie. Une manière de clapement m'a fait tourner la tête. J'ai entrevu mes deux voisins qui s'embrassaient sur la bouche, salement. Au même instant, j'ai entendu la chasse d'eau. Un gros monsieur sortait avec difficulté de la petite porte. J'ai payé ma consommation. Ainsi, voilà ce que nous étions devenus, Annie et moi. On ne devrait pas aller à des rendez-vous avec plus de 20 ans de retard.
Balayé par septembre, notre amour d'un été tristement se démembre et se meurt au passé. J'avais beau m'y attendre, mon cœur vide de tout ressemble à s'y méprendre. À Paris, au mois d'août, de larmes et de rires était fait notre amour, qui redoutant le pire vivait au jour le jour. Chaque rue, chaque pierre semblait n'être qu'à nous. Nous étions seuls sur terre à Paris. Dire je t'aime aussi loin que tu sois, une part de moi-même reste accrochée à toi. et l'autre solitaire recherche de partout l'aveuglante lumière de Paris au mois d'août. Dieu, fasse que mon rêve de retrouver un peu du mois d'août sur tes lèvres de Paris.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Les grandes largeurs, récit de Henri Calais. L'autre soir, j'ai vu par là un homme qui remontait l'avenue de la Grande Armée. Au beau milieu de la chaussée, à contre-courant des voitures, en braillant d'anciens airs qui, je ne sais pourquoi, m'ont paru bretons. Moi, je chantonne plutôt. Au lieu que lui, il hurlait en faisant des gestes désordonnés des bras. Mais il ne semblait pas gai non plus. On eût pu craindre que ce ne fût la tête d'un cortège ou le signe avant-coureur d'une révolution populaire, alors que le type avait seulement organisé une manifestation à lui tout seul. À moins qu'il ne commémorât ainsi un anniversaire personnel. Les gens se montraient inquiets. On n'est pas accoutumé à rencontrer un être libre dans ces parages, surtout. Il se dirigeait droit sur l'Arc de Triomphe. Qu'allait-il y faire? D'où venait-il? D'une banlieue ouvrière, sans doute. L'avenue lui appartenait en entier. Les autos stoppaient net devant lui qui ne les voyait même pas. C'était un homme de taille moyenne. Il avait une démarche très mâle sous la petite casquette ronde. Sa voix dominait tous les autres bruits, mais je ne parvenais pas à reconnaître sa chanson. Peut-être improvisait-il. Lorsqu'il entrait dans le rayon d'un phare, il était tout nimbé momentanément. J'aurais bien voulu me joindre à lui, le suivre, en tâchant de m'adapter au rythme de sa mélopée sauvage. À deux, nous eussions sans doute entraîné quelques voyous. On n'a pas fréquemment l'occasion de se prouver que l'on existe. Et puis nous aurions terminé cette belle soirée au poste, l'un près de l'autre, en gueulant le plus fort possible. C'eût été merveilleux. Mais je n'ai pas osé le faire, car je suis policé. Le même soir, j'ai été bousculé sur la place de l'Étoile par un grand exhibitionniste au crâne rasé. Il y a des heures où tout le monde chavire et sombre dans le vide. Pas même de l'eau à quoi s'agriffer pour se retenir de couler à pic. L'homme est allé en zigzagant s'affaler sur un tas de sable. Sa braguette s'ouvrait en triangle sur quelque chose de pâle et comme précieux. Les promeneurs ricanaient, un peu, sans s'arrêter. Nous avions tous l'impression d'être nous aussi déboutonnés. Mais ce n'est pas ce que je voulais raconter. Je me rappelle que j'ai joué autour de ces tas de sable il y a longtemps. J'étais si petit que je me distingue à peine. On n'avait pas encore eu l'idée d'enterrer un squelette inconnu sous l'arche. Nous n'étions que des héros en puissance, nous étions heureux, probablement. Il y avait moins de héros morts et vivants de par le monde, moins de fantômes. Je m'amusais quelquefois là, les après-midi d'été ou de printemps, quand ma mère, qui était femme de ménage, avait des loisirs. C'était moins loin de chez nous que le bois de Boulogne ou le parc Monceau, et le sable était tout aussi bon pour faire des petits pâtés. J'emportais avec moi une pelle et un seau, sur lequel étaient peints des attributs marins, et je m'accroupissais en bordure du trottoir près du tas de sable de forme trapézoïdale, tout contre la guérite de planche de l'employé de la CGO qui tisonnait le foyer des grands tramways à vapeur qui relâchaient là. L'un d'eux était surnommé la baladeuse. Il allait du Trocadéro à la Villette. L'eau qui était nécessaire pour obtenir après malaxage un sable d'une bonne consistance coulait à deux pas dans le ruisseau. Ma mère m'a répété que c'est sur cette place de l'Étoile que j'ai eu ma première grande colère d'enfant. C'était plutôt une révolte violente et profonde. Voici ce qui s'est passé là. J'étais en train de confectionner avec soin un de ces petits pâtés de sable. C'est difficile. Il y faut de l'application, de la délicatesse, de l'ambition. J'avais encore tout cela. On tapote sur le bord et sur le fond, puis on soulève le seau doucement, sans trembler. Et alors le pâté apparaît monolithique. Avant d'y parvenir, on a connu bien des échecs. Il me semble que j'éprouve à présent le même émoi délicieux qu'alors. J'entends comme un crissement. Plus jamais je ne saurai faire d'aussi beaux pâtés, ni rien qui me donne un tel contentement. Donc j'en étais à ce point où l'on doit apporter une pleine attention à la manœuvre en cours, lorsqu'un garçon, un peu plus âgé que moi, mieux habillé aussi, s'est approché. Sournoisement, si l'on veut. De mon pâté. Puis, sans rien me dire, il l'a détruit d'un coup de pied. À 40 ans de distance, je vois la scène, il avait bien visé. D'un seul coup de pied, il avait anéanti ce pâté qui m'avait demandé tant d'efforts. D'un seul coup, je ne possédais plus rien. Pourquoi ? Pourquoi je ne faisais de mal à personne, moi ? Ce doit être ce que l'on appelle chez les sportsmen un shoot réussi. Oui, je le sens encore, je sens qu'il m'a botté l'âme, cet élégant petit garçon. Je dois encore en avoir la cicatrice. Ça a été un shoot doublement réussi. Pour la première fois de ma vie, j'étais victime d'une mauvaise fatalité, d'une méchanceté incompréhensible. Avant ce jour-là, j'ignorais qu'il y eut des bourreaux à titre gracieux. Il paraît que je suis devenu tout pâle, que j'ai dit simplement au démolisseur de pâté « petite miette de pain ». C'est à ce moment que j'ai dû me classer définitivement parmi ceux que l'on spolie, que l'on écrase sans qu'ils trouvent grand-chose à y redire. J'ai dû comprendre à cette minute que l'on n'était pas ici pour s'amuser, que la vie est dure et que l'on s'y cogne. Ce gamin m'avait inconsciemment mis à ma vraie place. C'est depuis lors que j'ai des airs de transfuge dans ces parties occidentales de Paris. Petite miette de pain. C'est tout ce qui m'est venu à la bouche dans l'instant en fait d'insulte. Eh bien maintenant que je suis grand, je gâche que je répliquerai de la même façon si l'on détruisait mon pâté avec le même mépris, un peu triste, sans trop me fâcher. Il m'est heureusement venu une grande indifférence qui est comme un nuage protecteur autour de ma personne et de mes menues entreprises. Je ne m'indigne plus de croiser des garçons mal élevés, ni même des exhibitionnistes. Je ne m'étonne pas de rencontrer sur la voie publique des ivrognes qui s'imaginent un soir que tout est permis. On a écrasé mes pâtés les uns après les autres, le plus souvent sans mauvaise intention, par accident. Il m'est arrivé de les démolir moi-même. Quoi qu'il en soit, cela n'a guère d'importance, pas plus qu'une petite miette de pain. Ces jours-ci, j'ai vu un autocar vide devant l'Arc de Triomphe. Sur la carrosserie de couleur bleu ciel, il y avait le nom du propriétaire, un Allemand, et la ville d'origine, Wiesbaden, et à l'arrière, une petite plaque blanche qui portait la lettre D en noir. Les touristes étaient allés saluer le soldat allégorique. On a raison de dire que l'assassin revient toujours sur les lieux de son crime. J'ai rêvé cette nuit que la flamme de l'étoile était éteinte, et j'en étais très peiné. L'avenue de Wagram. Mon père y a hanté des cafés à femmes dans sa 30e année, ce qui a beaucoup tourmenté ma mère. Il est encore chez Albouy, me disait-elle. Ce nom auvergnat a longtemps représenté pour moi ce qu'il pouvait y avoir de plus horrible au monde. Il y a un enfer, même pour les enfants élevés dans les principes laïques et anticléricaux. Mais que se passait-il chez Albouy? Je l'ai su plus tard, lorsque, à mon tour, j'ai été pris dans les embarras de la vie vers 1925. C'est sur l'avenue de Wagram et dans les petites rues adjacentes que j'ai jeté ma gourme aux yeux de quelques boniches en de pauvres hôtels meublés. C'est là que j'ai fumé mon premier cigare. J'étais entiché d'une jeune violoniste blonde du Café Tabac. J'allais à l'Empire. Non pas le music hall d'aujourd'hui, mais une salle où l'on jouait des opérettes comme « Le cœur et la main » et « Le jour et la nuit ». J'apprenais les chansons en vogue à Paris Kermesse. Ces chansons écoutées debout forment encore le fond de mon répertoire. Mais je n'ai jamais mis les pieds chez Albouy. Ce n'était à la vérité qu'un café comme les autres, où venaient se réfugier quelques prostituées lorsqu'il pleuvait ou quand les mœurs étaient en chasse. Je me souviens très bien du temps où les Champs-Élysées étaient presque déserts et sombres dès que tombait le soir. Il n'y avait qu'un seul cinéma, quelques hôtels luxueux, un café, un petit théâtre. Cette avenue était vouée à l'automobile. Nous nous y rendions le dimanche en grande cohorte processionnaire pour l'admirer de près, sous verre, sans y toucher. Ou le 14 juillet pour applaudir notre armée. Mais en ce qui me concerne, seulement à dater du jour où mon père a quitté ma mère, car il désapprouvait hautement ces manifestations militaires, du moins en actes et en paroles. Je ne serais nullement surpris d'apprendre qu'il a lui aussi un petit drapeau français planté dans le cœur, comme nous tous. Ma faveur allait à la garde républicaine à cheval et plus spécialement aux trompettes avec leurs casques à crinière rouge. C'est au théâtre Femina que j'ai eu le bonheur de voir la Argentina. Dans ma période de dandysme, je me suis risqué quelquefois au palais de glace. J'ai été aussi au bar du Carlton avec une femme du monde plus très jeune qui buvait des cocktails. Mais tout cela ne pouvait guère durer. C'était très au-dessus de mes moyens. Je portais une bague en or, garnie d'un brillant et de deux saphirs, et je crois bien qu'en buvant ces cocktails, je tenais le petit doigt en l'air. Récemment, j'ai assisté à un défilé singulier. Des agents de police en grande tenue, précédés d'une fanfare, escortés de motocyclistes, se rendaient à l'Arc de Triomphe. Des flics montant vers la gloire, c'était inattendu. Il est vrai que tout le monde y va à cette heure. Donc nous avons terminé pour ce soir ce récit de Henri Calais, Les Grandes Largeurs, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.